À recours, mémoire d'un bacille. Le récit de mon existence, déjà longue, ne vous étonnera peut-être guère, mais ce qui vous surprendra, sans doute, c'est que j'ai pu l'écrire, ou du moins la dicter. Et ce qui vous émerveillera, c'est l'analyse de mes pensées, l'ensemble de mes remarques, mes espérances et mes ambitions. Je ne suis pas un microbe ordinaire. Reconnaissez en moi le bacille d'élite, l'illustre parmi ses congénères, auteur d'une grande œuvre. J'ai fait beaucoup déjà, je ferai plus encore. Et autant que Dieu me prêtera de vie, je poursuivrai ma tâche avec l'aide imbécile des hommes. Et tant qu'un nouveau pasteur n'aura pas trouvé le moyen de détruire notre race puissante et prospère, la mémoire de mon génie subsistera dans la gratitude de mes arrière-neveux. J'ai longuement pratiqué les hommes, m'étant nourri de leur substance, du tréfonds, des poumons et du cerveau. Et de la sorte, j'ai pu apprendre leur langue et leurs idées, penser avec eux, parler comme eux. J'ai leur science infuse, et quant à leur âme, j'en ai bien bu, oh, j'en ai bu assez pour me conduire et raisonner en homme. Je suis né dans les cavernes d'un savant, et ma première enfance m'instruisit de tout ce qui se tramait contre notre race. L'antisepsie préoccupait ce docte personnage. Elle faisait l'objet de ses recherches. Et le thème de ses discours. Oh, je connus le danger et j'appris à le craindre. Il s'agissait plus ou moins de nous tuer, de nous supprimer du monde. Les spores tuberculeux, et plutôt je compris que c'était contre notre espèce et l'espèce humaine, un duel à mort qui prendrait fin seulement à la disparition de l'une ou l'autre race. Je résolus pour ma part de me tenir sur mes gardes et de chercher refuge en un organisme moins dangereux. Donc, lorsque mon éducation parfaite, c'est-à-dire quand je eus acquis la pleine connaissance des armes employées par l'ennemi pour arriver à notre extermination, je m'installai confortablement dans le convoi de l'émonctoire, et je partis du savant le soir même et m'introduisis dans l'univers plus propice d'un pauvre diable, moins érudit et moins soigneux de sa personne. Au nom des spores, je pris possession de cet empire-là, et j'allais pouvoir agir et, au moins, de la exprimer et conquérir d'autres corps et faire rencontre d'une immense domination. Je dois confesser que les événements me servirent, et le hasard que je pourrais, à l'exemple des hommes, appelée la Providence, vint à mon aide. Car chez nous, aussi bien que dans l'espèce humaine, les combinaisons des plus grands politiques et des plus puissants dominateurs dépendent en l'occurrence d'occurrences qui restent indépendantes de la volonté, et le plus souvent les circonstances extérieures font qu'une idée géniale se porte ou ne porte pas ses fruits. Et du hasard dépend que l'idée soit bonne ou mauvaise, profitable ou nuisible, modifie une histoire dans un sens ou dans l'autre. Eh bien, Dieu m'a aidé. La fortune des événements a fait de moi un bacille, un glorieux bacille, un sublime bacille. En effet, l'homme que j'occupais fut renvoyé par les docteurs à son berceau natal pour y guérir, ou disait-on plutôt pour y mourir, pensait-on. Il était de Bretagne. Et j'eus, en arrivant, la joie de constater que nous pénétrions dans une contrée vierge de la domination tuberculeuse, où l'on nous ignorait et où nul ne nous craignait. Pays pauvre mais sain. La lutte serait belle à mener, la conquête superbe à faire. Le vent pur et salin nous serait un rude adversaire qui m'abattrait des années entières de sport, mais je me sentais de taille à renouveler nos bataillons. Et puis je comptais surtout sur la collaboration de l'homme dont l'imbécillité vivace est bien notre plus sûr allié. Le succès passa nos espérances. L'homme est plus stupide qu'on ne pense, infiniment plus stupide qu'un microbe ne peut l'imaginer au d'abord. Il faut l'avoir, comme moi, habité et rongé pour réussir à concevoir l'excès de sa bêtise qui, dans certaines régions, avoisine celle des brutes. Vous savez que volontiers nous travaillons dans l'espèce bovine. Je connais des vaches un peu laitières et aussi des laitières un peu vaches qui conduisent leurs bêtes sur la lande. Mais le cerveau des unes est tout pareil à celui des autres. Et même l'instinct de celle-là, comparé à l'âme immortelle de celle-ci, fournit une supérieure quantité d'intelligence utile et de prudence naturelle. Ça, l'animal se défend un peu contre nous, mais l'homme nous seconde. Et j'affirme que sans son aide, nous n'arriverions pas au triomphe définitif. Jugez-en. Mon esprit en Bretagne passa presque inaperçu, et vous le pensez bien. On m'introduisit dans une île peuplée de 1 000 habitants. Vous trouverez sur la carte cette humble losange double de terre dans les côtes du Nord, à 100 lieues au large de la Manche. L'ancienne île de Bréhac semble avoir été, comme son nom l'indique, une léproserie du Moyen Âge. Je tirai bon augure de cette appellation et je me vouai à rétablir ici la toute-puissance de la contagion et de la mort. Qu'était-ce donc en vérité? Qu'était-ce donc auprès de moi, La lèpre était-elle comme moi un péril national? Cette bénigne endémie ne fut pas contagieuse. Et je suis, moi, l'épidémie qui veut tuer tout un peuple. Alors je cours, je flotte, je passe, je me répands, je vais à ma guise, dans le vent, où il veut, où nous voulons, et partout à la fois. Nous arrivâmes à Bréhac. Je me réjouissais de me voir entouré d'eau. La consanguinéité est particulière aux îles, où les mariages se font entre parents proches et rachitisent l'espèce, promettait un terrain propice. Je ne tardais pas à constater une autre cause de dégénérescence dont j'allais profiter. L'alcoolisme régnait là, avec toutes ses hérédités. Les passants, par douzaines, étaient idiots, goitreux, sourds-muets, coxalgiques. Je les vis défiler, et rien que de les voir, je compris le droit que leurs parents m'avaient légué sur eux. Ce monde m'appartenait, et j'en pris possession. Certes, ce ne fut pas long. Dans la première visite de mon hôte dans les chaumières de sa nombreuse famille, mon plan fut arrêté. On nous regardait en disant « Oh, il n'ira pas vieux !»« Oh, on disait cela simplement !» L'air grave, la tranquillité des Bretons, quand ils parlent des morts. Et il toussait, il crachait, il se reproduisait un peu partout. Quand nous sortions d'une maison, nous laissions derrière nous, sur la terre battue qui remplace le parquet, un peu de la salive mortelle. Mes spores couvaient là. Ensuite, il se levait du sol, innombrable et invisible, et ils entraient dans les veines et ils s'installaient dans les êtres. J'eus la bonne fortune de m'introduire chez quelques marchands de nourriture, et j'empoisonnais alors leurs boutiques. Ils me crachaient avec leurs poumons et m'expectoraient dans l'atmosphère des viandes et des pains. Les gens venaient en file, en foule, acheter de la mort sous les aspects de la vie. Toc! Ah, les belles journées! Et comme je riais de voir cette horde têtue apporter son argent et payer pour avoir le droit d'emporter dans la chaumière le trépas des petits-enfants. Mais les jeunes, dans un baiser, m'offraient aux vieux, et les vieux me crachaient aux jeunes. J'habitais les barbes malpropres, les draps jaunes, les lits clos, et dans les cuelles communes et le verre qu'on prête, je circulais à la ronde, j'allais de bouche en bouche, hâtif à la besogne. Je pris les fontaines, où l'on vient tour à tour laver le linge et puiser l'eau dans la fange du lavoir qui complète le puits. Et mes spores par milliers attendaient un preneur et s'infiltraient dans la citerne du linge sale. Je passais vite dans la tasse et les vaches me ruminaient à l'abreuvoir. Et je nageais alors dans le lait blanc et rampais dans le beurre doré. Tous ces gueux mal alimentés et de sang pauvre, tombaient sous moi. Et au bout de 5 semestres, je tenais 20 chaumières. Et quand j'adopte une maison, je la vide. Je ne laisse debout que les pierres avec les meubles. Et malheur à qui les acquiert. La tâche m'est bien aisée à détruire ainsi les familles, car le soir même du jour où le fossoyeur emporte une caisse, on me livre à la hâte un nouvel atelier de travail, un nouveau cadavre à faire dans le lit du mort, et souvent dans ses draps, toujours sur les courtines, quelqu'un vient se coucher par affection, par économie, le soir des obsèques. On me laisse pas 12 heures de chômage. Même si je voulais me reposer, on ne me permettrait pas. Il faut que je tue. Tous les mois, dans le même lit, le fossoyeur vient en prendre un nouveau. Ils veulent que je les tue. Ils me l'ordonnent et l'exigent, presque. Et j'ai l'air d'être leur esclave. Je revais pour eux la forme du suicide. Suis-je d'inconscient, direz-vous, et par ignorance? Non, par entêtement et par stupidité. Quand on les avise du péril que l'expérience leur montre, que la cafetière leur crie, ils se haussent les épaules, ils sourient avec dédain et recommencent. Je vous dis qu'ils me veulent et que je suis leur élu. Dans 20 ans, elle sera vide, cette île. Elle est mienne. Et en plus, cela m'est fort utile d'avoir un tel domaine à ma dévotion, loin des médecins, des règlements sanitaires et des pouvoirs publics, un pays qu'on m'abandonne et que nul ne défend contre moi. Utile, vous dis-je, car de ce point j'irradie mes troupes sur la Bretagne tout entière, préparée par l'alcool. Toute la Bretagne m'attend. Je la prendrai. Souvenez-vous que j'annonce ma conquête. Je suis un Attila, fléau de Dieu. Inscrivez mon nom dans l'histoire. Edmond Haraucourt. Journal quotidien, artistique et scientifique, 1901.